Laudetur Jesus Christus.
Les sadristes remportent les législatives irakiennes. La commission électorale a annoncé hier les résultats définitifs. Avec 73 sièges, le courant du leadership Moqtada Sadr devient le premier bloc au Parlement. L'alliance de la conquête pro-Iran ne remporte, elle, que 18 sièges. Les tractations politiques vont maintenant débuter. Des milliers de Soudanais ont de nouveau manifesté hier à Khartoum, la capitale. Ils réclament un transfert du pouvoir aux seuls civils et rejettent la présence des militaires. Des violences ont eu lieu aux abords du palais présidentiel. Reportage dans quelques instants. La Pologne a prolongé de 3 mois l'interdiction d'accès à la région frontalière avec le Bélarus, une mesure imposée en septembre dernier en raison de la crise migratoire. L'accès à cette zone frontalière reste interdit à toute personne non résidente, y compris aux membres des ONG et dans les migrants. Dans notre dossier, nous reviendrons sur la crise politique en Bosnie-Herzégovine, la plus grave depuis la fin de la guerre civile il y a 26 ans. À l'origine des tensions, l'annonce par le chef du parti séparatiste serbe du démantèlement d'institutions clés de l'État et la création d'une armée autonome. Analyse en fin de journal.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour, c'est officiel. En Irak, le courant du leadership Moqtada Sadr remporte les législatives anticipées du 10 octobre dernier. Les résultats définitifs ont été publiés hier. Les sadristes constituent désormais le premier bloc au Parlement avec 73 sièges. L'Alliance de la Conquête, une coalition d'anciens paramilitaires pro-Iran qui dénonce des fraudes, perd les 2/3 de son bloc parlementaire. En l'absence d'une majorité claire, les partis vont maintenant se livrer à un jeu d'alliance. Les explications d'Anne-Sophie Lemoff.
La commission électorale a confirmé hier la victoire du courant sadriste dirigé par le religieux et nationaliste chiite Moqtada al-Sadr. Avec 73 sièges, il devient ainsi le premier bloc au Parlement. Des résultats que réfute catégoriquement l'Alliance de la Conquête, l'aile politique des unités de mobilisation populaire, une force armée de plus de 160 000 hommes engagés dans la lutte contre Daesh et intégrés aux forces irakiennes. Ces forces pro-Iran ont accusé la Commission d'avoir truqué les résultats et assuré qu'elle poursuivrait l'action intentée en justice dans le but d'obtenir l'annulation du scrutin du 10 octobre. L'Alliance de la Conquête est passée de 48 à 18 sièges parlementaires. Elle bénéficie toutefois de l'appui de taille de l'ex-premier ministre chiite Nouri al-Maliki, dont la coalition État de droit a remporté 33 sièges au Parlement. C'est dans ce climat politique délétère que ces résultats définitifs vont être envoyés au tribunal fédéral pour y être entérinés. Viendra ensuite la désignation du président de la République. Ce n'est qu'au terme de longues et houleuses négociations politiques que sera formé le nouveau gouvernement. À Bagdad, Anne-Sophie Lemoff pour Radio Vatican.
Le Hamas a annoncé avoir conclu un accord avec le Qatar. Il porte sur le paiement d'une partie des salaires des fonctionnaires de la bande de Gaza. Prise au piège du bras de fer entre le mouvement islamiste et l'autorité palestinienne du président Abbas, ils ne perçoivent depuis des années que 55% au mieux de leur salaire et de manière irrégulière. Les précisions de Valérie Ferron.
Cet accord est censé faciliter le paiement des salaires d'environ 50 000 employés travaillant dans les ministères palestiniens de la bande de Gaza, qui restent de facto sous contrôle du Hamas et non de l'autorité nationale du président Abbas, en l'absence d'application des accords de réconciliation nationale. L'accord qui a été conclu avec l'aide du Caire prévoit que le Qatar va envoyer du carburant dans la bande de Gaza via l'Égypte. Le Hamas pourra le revendre aux stations-service et payer avec les recettes les salaires des fonctionnaires. Cet accord vient compléter celui déjà conclu entre le Qatar et les Nations Unies chargé de redistribuer jusqu'en décembre des aides financières aux familles les plus démunies à hauteur de $100 par mois. L'ensemble de ce système a reçu le feu vert du gouvernement israélien actuel qui avait refusé de renouveler l'accord précédent conclu à l'époque de l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou et qui permettait au Qatar d'acheminer directement dans la bande de Gaza des valises d'argent liquide. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
La crise économique et humanitaire en Afghanistan s'aggrave et il faut sauver des vies menacées par la pauvreté et la famine. C'est l'alerte lancée par le programme des Nations Unies pour le développement. L'ONU met notamment en exergue l'importance du travail des femmes. Priver les femmes de travail enfoncera encore plus le pays dans la crise économique déjà catastrophique, prévient le PNUD, soulignant que les talibans n'ont autorisé qu'une partie des femmes fonctionnaires, celles exerçant dans l'éducation et la santé, à reprendre le travail. Nouvelle journée de mobilisation hier contre le coup d'État au Soudan. À l'appel des comités de résistance et de nombreuses organisations de la société civile, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues du pays pour réclamer la chute de la junte qui avait pris les rênes du pays le 25 octobre dernier. Un accord a été signé le 21 novembre et le Premier ministre Abdallah Hamdok est de retour à son poste, mais de nombreux manifestants considèrent qu'il a trahi les aspirations de la révolution soudanaise. Reportage dans les rues de Khartoum d'Eliott Brachet.
Que les militaires retournent dans leurs casernes. Le message est clair, scandé par des milliers de Soudanais, toutes générations confondues, qui défilent pour la 7e fois en un mois dans les rues de la capitale et de tout le pays.
Ces généraux ne nous représentent pas, ils reviennent du passé, d'un régime qu'on a déjà fait tomber, qui pendant 30 ans nous a imposé la dictature et la douleur. Nous n'acceptons pas non plus que Hamdok s'assoie avec des généraux qui ont tué 42 jeunes révolutionnaires depuis le coup d'État.
Les gaz lacrymogènes pleuvent sur les cortèges, des grenades assourdissantes, plusieurs manifestants sont touchés au visage par des tirs tendus.
Ils voudraient qu'on ferme les yeux aveugles. Cela fait 3 ans qu'on manifeste. Nos frères sont morts sur cette place. Nos frères sont morts loin d'ici, dans les régions marginalisées. Tu vois, les gens sont galvanisés par le bruit des lacrymogènes. On a atteint une étape où on n'a plus peur. Plus peur des lacrymos, plus peur des balles, plus peur de rien.
Quelques tirs à balles réelles résonnent. À chaque détonation, les manifestants se dispersent avant de revenir à la charge. La confrontation s'est poursuivie dans la nuit. De nombreux militants ont été arrêtés jusque dans les hôpitaux. Malgré la répression, la contestation est loin de s'essouffler. Eliott Brachet, Khartoum, Radio Vatican.
Plus de 30 civils et 2 militaires ont été tués dans des attaques de groupes armés en Centrafrique. Elles ont eu lieu dimanche dernier dans le nord-ouest du pays. La Centrafrique, où est présent le groupe russe Wagner, ses actions dans le pays pourraient conduire l'Union européenne à mettre un terme à sa mission de formation des forces armées centrafricaines. C'est ce qu'a fait savoir hier la porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Des déclarations suite à la publication d'un rapport de la diplomatie européenne sur la Centrafrique qui met en relief l'emprise du groupe sur le pays. En vigueur depuis 3 mois en Pologne, l'état d'urgence à la zone frontalière avec le Bélarus devait prendre fin à minuit la nuit dernière, mais face aux tensions qui perdurent dans la région, Varsovie a annoncé une nouvelle loi. Les explications de Jasmin Lemieux-Lefebvre.
Une nouvelle législation a été adoptée hier par le Parlement polonais pour protéger sa frontière avec le Bélarus, accusé d'avoir créé toute pièce une crise migratoire pour déstabiliser la région en représailles aux sanctions économiques de l'Union européenne. Tout comme l'état d'urgence qu'elle vient remplacer, la loi permet des restrictions controversées sur la liberté de circulation des personnes ne vivant pas sur le territoire frontalier, dont les médias, les ONG venant en aide aux réfugiés. L'opposition, majoritaire au Sénat polonais, a bien tenté de leur permettre un libre accès à la frontière par une série d'amendements au projet de loi, tous rejetés hier par la Chambre basse du pays et sa coalition de droite. Avec la nouvelle loi adoptée hier, le ministre de l'Intérieur polonais a le pouvoir de maintenir ces restrictions. Elle prévoit des exceptions possibles, notamment pour la presse, qui pourront être envisagées de concert avec le commandement local des gardes frontières. Même si la situation est moins alarmante qu'à la mi-novembre, la Pologne confirmait 134 tentatives pour traverser sa frontière orientale lundi. À Varsovie, Jasmin Lemieux-Lefebvre pour Radio Vatican.
L'artiste franco-américaine Josephine Baker est entrée au Panthéon hier après-midi lors d'une cérémonie présidée par le président français Emmanuel Macron. Elle est la première femme noire à avoir rejoint la dernière demeure des grandes figures françaises en plein cœur de Paris. Un hommage à sa vie d'artiste, de résistante et de militante antiraciste. Avant de passer à notre dossier, sachez que l'intention de prière du pape François pour ce mois de décembre est consacrée aux catéchistes. Dans la dernière vidéo de cette année 2021, le Saint-Père encourage les catéchistes à annoncer l'Évangile par leur vie en douceur, avec un nouveau langage et en ouvrant de nouveaux chemins. Et puis je vous rappelle que comme chaque mercredi, vous pourrez suivre l'audience générale du pape François en direct dès 9h15 avec commentaires en français à l'adresse vaticannews.va. 26 ans après la fin de la guerre civile, la Bosnie-Herzégovine est confrontée à sa plus grave crise politique. Dans ce pays, les stigmates du conflit, qui a opposé jusqu'en 1995 des forces serbes, croates et bosniaques et a fait près de 100 000 morts, sont encore visibles un peu partout. Depuis les accords de paix de Dayton en 1995, l'État bosniaque est divisé en deux régions autonomes, avec la République serbe d'un côté et la Fédération croato-bosniaque de l'autre. Les partis nationalistes ne cessent depuis d'attiser les tensions entre les trois communautés qui ne partagent plus grand-chose. Mi-novembre, le chef du parti séparatiste serbe, Milorad Dodic, a semé le trouble en annonçant le démantèlement d'institutions clés de l'État et la création d'une armée autonome, de quoi inquiéter la communauté internationale qui craint de voir remonter les anciennes violences intracommunautaires du pays. Jean-Arnaud de Reims, rédacteur en chef du Courrier des Balkans, il décrypte les tensions actuelles dans le pays.
Il faut bien distinguer deux choses, les communautés qui existent et les partis politiques ethno-nationalistes qui s'arrogent le monopole de la représentation de ces communautés. Donc quand vous avez, mettons, M. Dodik, le dirigeant du parti nationaliste serbe, qui dit quelque chose, il prétend parler au nom des Serbes, idem pour M. Čović, qui prétend parler au nom des Croates.
À quel défi est confrontée la Bosnie-Herzégovine depuis la fin de la guerre en 1995 ?
Fondamentalement, les choses n'ont pas changé depuis 26 ans, depuis la conclusion des accords de paix de Dayton en novembre 1995. En réalité, le problème de ces accords, c'est qu'ils ont donné la clé du pays, de toutes ses institutions, à ces oligarchies ethno-nationalistes qui ont tout intérêt à maintenir les divisions du pays. Pour des raisons très simples, la Bosnie-Herzégovine, c'est deux entités dont l'une, la Fédération croato-bosniaque, compte 10 cantons. À cela se rajoute un district inter-entité, le district de Brčko. Tout ça, ça fait 13 gouvernements, 13 parlements. Donc une classe politique totalement pléthorique, mais pas seulement par le nombre de députés, également le nombre de chauffeurs de députés, de secrétaires de députés. Ce qui veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui vivent directement de la politique et qui dépendent pour cela de ces partis ethno-nationalistes qui ont un seul intérêt, c'est que rien ne change. C'est ça le drame de la Bosnie-Herzégovine. Depuis 26 ans, on parle d'une réforme de ce cadre institutionnel totalement abracadabrantesque et monstrueux, surdimensionné, mais en réalité, ceux qui ont les clés d'une éventuelle réforme, à savoir ces partis ethno-nationalistes, n'ont aucun intérêt à le faire. Pour ces raisons, depuis 26 ans, le débat politique en Bosnie-Herzégovine est toujours focalisé sur les mêmes questions, cette impossible réforme du cadre institutionnel, le renforcement des compétences soit de l'État central, soit des entités, mais ce débat ne peut pas évoluer. De ce point de vue-là, la crise très grave que connaît aujourd'hui le pays n'est pas d'une nature radicalement différente des crises que la Bosnie a déjà régulièrement connues, même si elle est peut-être plus sérieuse que d'autres.
Le chef du parti serbe Milorad Dodik menace depuis des années de faire sécession. Pourquoi la menace de ces derniers jours est-elle perçue comme plus grave que d'habitude ?
Parler de la sécession, ça c'est ce que font ces ethno-nationalistes, notamment du côté serbe, de manière récurrente. C'est grosso modo, vous me donnez tout ce que je veux, tout ce que je demande, ou bien je fais sécession. De ce point de vue-là, vous avez raison, il n'y a rien de très nouveau. La différence, c'est que cette fois-ci, Milorad Dodik ne se contente pas de parler de la sécession. Par certains aspects, il a déjà engagé des gestes concrets qui ressembleraient à ce que l'on pourrait appeler une sécession rampante. La Republika Srpska, l'entité serbe du pays, a ainsi quitté plusieurs institutions communes. Jusqu'où peut-on aller ? Je crois que personne n'en sait rien, absolument rien. Le véritable enjeu, c'est que dans un an, il y a des élections générales qui sont prévues et ces oligarchies ethno-nationalistes commencent à se sentir menacées. Et leur réponse habituelle, naturelle, est de susciter une nouvelle crise. Le problème, c'est face à cette nouvelle crise, que fait-on ? Là, pour le coup, tout le monde est totalement démuni.
Et face à ces tensions, comment réagit la communauté internationale ?
Aujourd'hui, plus que jamais, la communauté internationale est totalement divisée. Et de ce point de vue-là, cette crise est autant une crise internationale qu'une crise interne à la Bosnie-Herzégovine. Parce que c'est là où se trouvent, je pense, les principaux problèmes. C'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas du tout en mesure de parler d'une seule voix. Vous avez aujourd'hui déjà très clairement certains pays de l'Union, et je pense en premier lieu à la Hongrie de Viktor Orban, mais aussi à la Slovénie de Janez Janša, qui soutiennent les revendications serbes. Vous avez à côté de cela le reste de l'Union européenne, la France, pour ne citer qu'elle, par exemple, brille par son silence absolu. On est donc dans cette situation, et c'est ça le plus grave, je pense, où il n'y a pas de réponse internationale cohérente à cette nouvelle crise.
Interrogé par Claire Riobé, Jean-Arnaud de Reims, rédacteur en chef du Courrier des Balkans, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican. C'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute. Prochain rendez-vous, ce sera à 13h. D'ici là, je vous souhaite une très belle matinée. Au revoir.